Le journal Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour Quentin, bonjour à tous. Chassées de la région en l'été 2022, les forces russes lancent une offensive terrestre près de Kharkiv. Elles ouvrent ainsi un nouveau front dans le nord-est de l'Ukraine. Le président Zelensky annonce l'envoi de renforts. Les conditions de détention des prisonniers faits par Israël à Gaza, une nouvelle fois pointées du doigt. Pour la première fois, une photo semble confirmer les traitements indignes infligés aux détenus. Un conflit qui rattrape l'Eurovision de la chanson en Suède. La qualification d'Israël pour la finale ce soir provoque des dissonances en Europe.
En France, les méga-bassines sont une nouvelle fois source de tensions. Une randonnée festivette organisée ce matin au sud de Clermont-Ferrand contre le plus gros projet de réserve d'eau destinée à l'irrigation des champs.
Et puis l'exposition Napoli Ottocento à Rome. Elle tire de l'ombre un siècle méconnu pour Naples, le 19e, au cours duquel la ville, alors en plein déclin politique et économique, était au centre du monde artistique. Des combats intenses depuis hier matin sur toute la ligne de front en Ukraine. Dans sa traditionnelle allocution sur les réseaux sociaux hier soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est revenu sur l'offensive terrestre lancée par la Russie dans le nord-est, dans la région de Kharkiv. Moscou est brièvement parvenu à percer les lignes de défense ukrainiennes. À Kiev, Virginie Pironon.
Les traits tirés, Volodymyr Zelensky reconnaît dans son allocution d'hier soir les difficultés rencontrées par l'armée ukrainienne sur le front. Le président dit avoir été informé de la situation par le commandant en chef des forces armées. Il explique avoir discuté avec lui des actions défensives à mener et des moyens de renforcer les positions dans la région de Kharkiv, notamment avec de l'artillerie et des drones. Hier matin, les forces russes ont réalisé une percée à la frontière sur 1 kilomètre environ. Elle pourrait envisager de créer une zone tampon au nord de Kharkiv pour protéger la ville russe de Belgorod, cible régulière d'attaques ukrainiennes. Dans la foulée, Washington annonçait une nouvelle aide de 400 millions de dollars après des mois de blocage. Aide saluée par Volodymyr Zelensky.
Une nouvelle décision a été prise par le président Biden concernant le soutien américain. Cela comprend de l'artillerie, des armes anti-chars, de l'équipement et de la défense aérienne. C'est ce dont nous avons besoin. Je vous remercie. Nous travaillons sur la logistique pour nous assurer que toutes les armes seront déployées sur la ligne de front dès que possible.
Et le président ukrainien ajoute « Nous détruirons, je cite, immanquablement l'occupant ». Il appelle une nouvelle fois ses partenaires à soutenir ses soldats en leur apportant plus de matériel en temps voulu.
La région de Kharkiv n'avait pas été la cible de telles attaques depuis le retrait des troupes du Kremlin de la quasi-totalité de la zone après une contre-offensive ukrainienne lancée à l'été 2022. De graves accusations portées contre l'armée israélienne. Dans un article paru hier, CNN donne la parole à plusieurs lanceurs d'alerte israéliens qui dénoncent les conditions dans lesquelles sont détenus des prisonniers palestiniens. Et la chaîne américaine publie pour la première fois une photo qui semble confirmer ces accusations, Étienne Monin.
La photo de CNN est prise dans l'un des trois sites de détention. Il s'agit de Sde Timan, c'est une base militaire plantée dans le désert du Negev. On y voit des prisonniers en tenue gris-bleu derrière un rideau de barbelés, serrés sur le sol, les yeux bandés, dans ce qui ressemble à des conditions quotidiennes de détention. Pour Nadji Abbas, cela confirme ce que des témoins avaient déjà raconté. Il s'occupe des détenus pour l'ONG de médecins israéliens PRH.
People are cuffed the whole time.
Les gens sont entravés en permanence. Ça veut dire pendant 24 heures, sur des semaines et des mois. Ils ont les yeux bandés tout le temps. Les soldats les ont fait rester à genoux de 7 heures du matin jusqu'à 11 heures le soir. Les gens qui ont été détenus pendant un ou deux mois et qu'on a rencontrés après leur libération de Sde Timan nous l'ont dit.
On ne sait pas combien de prisonniers sont détenus dans Sde Timan. Plusieurs dizaines de personnes seraient décédées. Depuis le 7 octobre, le Comité international de la Croix-Rouge n'a plus accès aux centres de détention. Il n'a plus non plus de liste de prisonniers. La gestion est totalement opaque. Elle entre en contradiction avec la 4e Convention de Genève qui définit une protection pour les personnes sous occupation. Depuis le début de la guerre, le CICR a reçu 7000 demandes d'informations sur des palestiniens qui avait disparu. L'armée rejette ces allégations qu'elle considère comme non fondées.
Une majorité écrasante de l'Assemblée générale de l'ONU a jugé hier que les Palestiniens mériteraient d'être membres à part entière de l'organisation et leur a accordé octroyé quelques droits supplémentaires à défaut d'une véritable adhésion bloquée par les États-Unis. Une décision qui a provoqué la colère d'Israël. Et ce conflit entre Israël et le Hamas s'invite au concours de l'Eurovision de la chanson en Suède. La finale a lieu ce soir à Malmö et une nouvelle manifestation doit avoir lieu aujourd'hui en soutien aux Palestiniens et pour dénoncer la participation d'Israël. Sur scène, plusieurs candidats ont affiché symboliquement leur soutien aux Palestiniens lors des demi-finales. La compétition étant censée être apolitique, ils ont été rappelés à l'ordre par l'Union européenne de radio-télévision, organisateur du concours. Pourtant, Aurore Richard, la politique s'invite très souvent et depuis toujours à l'Eurovision.
Des pétitions à travers toute l'Europe appellent l'organisateur de l'Eurovision à exclure Israël, comme il l'avait fait en 2022 avec la Russie au lendemain de l'invasion de l'Ukraine. Mais l'Union européenne de radio-télévision explique que la participation de la Russie risquait de discréditer le concours et que ce n'était pas une décision politique. Cette édition 2022 avait alors été remportée par l'Ukraine. D'après Fabien Randan, journaliste culturel, le public a forcément été influencé par ce conflit au cœur de l'Europe.
Il y a effectivement eu une vague de solidarité européenne qui s'est exprimée pour ce pays puisque le nombre de points récoltés a été complètement phénoménal. C'était un raz-de-marée. L'Ukraine n'était pas si bien classée que ça par les jurys et elle a fini quand même par s'imposer grâce à ce très fort soutien populaire.
Pour ce spécialiste de l'Eurovision, les chansons sont aussi souvent un vecteur politique avec des textes engagés comme celui de l'Arménie en 2015.
La chanson, au départ, s'intitule Don't Deny. On était 100 ans après le génocide arménien et cette chanson, donc Don't Deny, ne niez pas, pouvait être perçue comme un message envoyé à tous les négationnistes, notamment à la Turquie, niant ce génocide-là. D'ailleurs, le titre de la chanson a dû être changé et est devenu The Face the Shadow. Affronter l'ombre.
Autre exemple, avec les Pays-Bas qui cette année participent avec un hymne à l'espace Schengen, à un mois des élections européennes et quelques mois après la victoire de l'extrême droite eurosceptique aux législatives néerlandaises.
Des renforts de police sont venus de toute la Suède, mais aussi du Danemark et de Norvège pour assurer la sécurité de l'Eurovision. Le secteur minier connaît depuis quelques mois une frénésie de rachats et de fusions. 121 milliards de dollars de transactions enregistrés en 2023. En pleine course à l'investissement dans les métaux stratégiques comme le cuivre ou le lithium, les grands groupes absorbent les plus petits ou s'unissent pour avoir plus de liberté financière. Dernier exemple en date, le rachat possible par l'Australien BHP du britannico-sud-africain Anglo American autour de 40 milliards de dollars. Une opération qui soulève des inquiétudes. Études politiques multiples entre perte de souveraineté et possible abus de position dominante, Valentin Grille.
L'Afrique du Sud est bien sûr en première ligne des oppositions car une large partie des mines détenues et exploitées par Anglo-American se trouve dans le pays. La vente à BHP pourrait sonner comme une lourde perte politique. Le premier actionnaire d'Anglo-American est aujourd'hui le Public Investment Corporation, un fonds souverain sud-africain. Johannesburg accuse aussi BHP de vouloir acheter au rabais l'un des principaux producteurs de charbon et de nickel mondiaux, en délaissant les actifs moins stratégiques situés dans le pays, comme le platine. Anglo a d'ailleurs déjà rejeté une offre de 39 milliards de dollars, jugée très peu attractive. Des concurrents comme Glencore jouent déjà la carte de leur engagement local en Afrique du Sud pour remporter la mise. L'autre possible perdant de l'opération est le Royaume-Uni, qui verrait un poids lourd de sa bourse londonienne quitter la City pour l'Australie. Les analystes soulignent le risque d'une hémorragie, alors que Londres attire aujourd'hui nombre de sociétés minières. Plus étonnant, le Botswana s'oppose aussi au deal en jurant de protéger ses intérêts. Il détient 15% de la société diamantaire De Beers, une filiale d'Anglo-American dont le destin est menacé car elle est peu rentable. Le Japon, lui, s'oppose à la création d'un géant australien dans le domaine du charbon à coke destiné à la production d'acier. Il craint que ses sidérurgistes ne le payent plus cher alors que 60% de ses importations viennent de Sydney. Enfin, pour les mêmes raisons, la Chine veut éviter un concurrent trop sérieux dans le domaine du cuivre cette fois, à la fois pour continuer à vendre le sien et pour acheter à des prix raisonnables. Le deal n'est pas encore bouclé que trois autorités de la concurrence, à Johannesburg, Pékin et Tokyo, planchent déjà sur un possible veto.
Le sud du Brésil, toujours largement sous les eaux, s'apprête à affronter de nouvelles pluies intenses ce week-end, prolongeant une situation déjà critique. Les pluies torrentielles qui se sont abattues la semaine dernière ont fait au moins 126 morts, avec 141 personnes toujours portées disparues. Les autorités craignent que le bilan ne continue de s'alourdir. Au cours des dernières 24 heures, le nombre de personnes contraintes d'évacuer leur domicile depuis la semaine dernière a quasiment doublé à 411 000. Inondations meurtrières également en Afghanistan. Au moins 62 personnes sont mortes dans la seule journée d'hier lors de crues subites dans le nord du pays.
France Culture, il est 8h10, le journal Marie-Hélène Duvigneau. Et en France, une randonnée festive pour la défense de l'eau organisée ce matin au sud de Clermont-Ferrand.
Oui, une zone Ardennes ou des agriculteurs du Puy-de-Dôme et le géant semencier Limagrain veulent installer deux réserves d'eau, des gigabassines de 14 et 18 hectares pour irriguer leurs champs, l'équivalent de 600 piscines olympiques qui puiseraient l'eau dans l'Allier en hiver. C'est le plus gros projet en France. Les organisations à l'origine de cette randonnée, Bassine Non Merci 63, Extinction Rébellion, la Confédération Paysanne et les Soulèvements de la Terre, dénonçant un accaparement de l'eau, demandent un moratoire sur le projet. Et ce n'est pas le premier qui suscite la contestation en France, Thomas Pinaroli.
Le plus emblématique, c'est évidemment Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Ce projet de réserve de 10 hectares qui pomperait de l'eau directement dans les nappes phréatiques. Les travaux sont déjà bien avancés malgré les manifestations à répétition. La dernière en date avait été ultra violente en mars 2023 avec 200 manifestants et une cinquantaine de gendarmes blessés. Trois organisateurs ont été depuis condamnés de 6 mois à 1 an de prison avec sursis pour organisation d'une manifestation interdite. Mais Sainte-Soline n'est pas le seul exemple. Il y a entre 1000 et 2000 projets en France de différentes tailles, souvent portés par des collectifs d'agriculteurs et principalement concentrés sur deux zones, le Marais Poitevin pour irriguer les terres agricoles et les Alpes pour fabriquer de la neige artificielle. À chaque fois, les opposants, associations écologistes notamment, multiplient les recours. Plusieurs centaines de projets sont bien allés au bout, mais certains ont été retoqués par la justice administrative. À Bantelu, dans le Val d'Oise, un agriculteur qui avait creusé la seule bassine d'Île-de-France a dû la reboucher. 15 projets de retenue dans le Marais Poitevin ont été annulés par le tribunal administratif de Poitiers l'année dernière, surdimensionnés et inadaptés au changement climatique, selon le juge. Et puis en Charente-Maritime, 5 bassines, pourtant terminées, restent vides. Le Conseil d'État a jugé leur construction illégale au bout d'une longue bataille judiciaire de 14 ans. Bataille qu'entendent donc mener aussi les opposants aux deux bassines dans le Puy-de-Dôme.
Pour Rémi Hetz, procureur général près de la Cour de cassation, il incarnait l'image du juge d'instruction indépendant et courageux et laissera une empreinte indélébile dans l'histoire judiciaire de notre pays. Renaud Van Ruynbeck, connu pour avoir notamment instruit des affaires politico-financières retentissantes, est décédé. Il avait 71 ans. Direction l'Italie à présent, où quand Naples était au centre du monde artistique, une exposition à Rome, Napoli Ottocento, montre l'importance de la grande ville du Sud dans ce domaine au XIXe siècle, alors qu'elle était au même moment en plein déclin politique et économique. On y trouve les premiers signes de l'art moderne, Bruno Duvic.
À la plage, dans le monde entier, les enfants construisent des châteaux de sable. À Naples, ils construisent des volcans. C'est par ces mots d'Eri De Luca que commence l'exposition avec le Vésuve qui a fasciné les peintres. Le Vésuve est ce qu'il a englouti. Sylvain Bélanger, commissaire de l'exposition.
La diffusion de la découverte de Pompéi et Herculanum crée un mouvement qui va mettre Naples sur la carte du monde.
En représentant Pompéi, les artistes découvrent la peinture de plein air, l'un des traits de l'impressionnisme. Autrement dit, se trouvent à Naples les premiers signes de cette révolution. Des œuvres présentées rappellent la série de Monet sur la cathédrale de Rouen. Mais c'est un autre Français du 19e que l'on redécouvre, Edgar Degas.
Il était napolitain par son père. Auguste Degas est né à Naples. Degas chantait en napolitain et surtout parlait napolitain.
Plusieurs toiles peintes par Degas à Naples sont exposées aux côtés de chefs-d'œuvre d'Italiens du 19e siècle, Antonio Mancini, Vincenzo Gemito et d'autres. Et pourtant, l'Italie n'a pas son musée d'Orsay.
L'art italien du 19e siècle est sous-estimé, il est largement ignoré. L'histoire de l'art italien est tellement grande qu'ajouter un autre siècle au 14e, au 15e, au 16e, au 17e, mais quand on regarde la créativité du 19e siècle à Naples, il y a des choses absolument inouïes.
L'exposition Napoli Ottocento, c'est jusqu'au 16 juin à Rome, pour ceux qui ont la chance d'y passer.
Bruno Duvic à Rome. Le phénomène est très rare. Une tempête solaire extrême a commencé à toucher la Terre hier, la première de ce niveau depuis 2003. Elle devrait durer tout le week-end et pourrait provoquer des perturbations sur les réseaux électriques et de communication. Mais ces importantes tempêtes solaires génèrent aussi d'impressionnantes aurores boréales, parfois bien plus au sud que dans les régions où elles sont habituellement observables. Plusieurs ont été visibles en France. Si vous avez manqué le spectacle la nuit dernière, il y a encore des chances qu'il y en ait la nuit prochaine, mais seulement pour ceux qui ont la possibilité de s'éloigner de toute source de lumière. Raté donc pour les citadins. Le temps, aujourd'hui beau et chaud sur l'ensemble du pays, après dissipation de rares grisailles matinales, avant une dégradation par le sud-ouest, en soirée, les températures au meilleur de la journée, 23-28 degrés en général, 19 à 24 sur les côtes de la Manche, 29 voire 30 dans le sud-ouest.